Radio Barque 30e et 3e partie, celle que nous consacrons traditionnellement à notre invité. Alors nos invités aujourd'hui, puisqu'ils sont deux, ils sont tous les deux des responsables de la CAPEB. Tout d'abord, ce sigle, rappelons, vous l'avez fait tout à l'heure, Monsieur Wagner, mais rappelons ce que ça veut dire, la CAPEB.
Donc la CAPEB, c'est la Confédération Artisanale des Petites Entreprises du Bâtiment. Et au niveau départemental, nous sommes des chambres départementales.
Oui, voilà. Donc vous êtes ce qu'on appelle un entrepreneur. Alors, vous vous classez dans les PME ou dans les TPE? Tous ces sigles, il faut les rappeler.
TPE, enfin, nous sommes des petites entreprises, voilà. Des petites entreprises, mais nous avons des moins de 10 et des plus de 10.
Oui, voilà, il y a les deux.
Donc, cela concerne aussi toutes les entreprises du bâtiment, c'est-à-dire pas seulement le maçon, quoi. Hein.
Alors, le bâtiment, oui, ça englobe. Alors, la Confédération artisanale des petites entreprises du bâtiment, la CAPEB, elle fédère donc les maçons, puisque c'est le plus gros contingent. Ensuite, les électriciens, les plombiers, les menuisiers, les ébénistes, les peintres, les métiers. Dans les électriciens, il y a les métiers de courant faible. Enfin, et j'en passe et j'en oublie. Hein.
Oui,
nous sommes très nombreux.
Hein. C'est une confédération.
Les ferronniers, serruriers, les carreleurs qui sont englobés.
Voilà, mais vous avez en commun d'être des petits entrepreneurs, et c'est à propos justement du projet de loi El Khomri et la loi sur le travail que vous vous êtes manifesté récemment pour exprimer alors un certain désaccord. Alors fondamentalement, quel est ce désaccord entre vous et peut-être d'autres?
Tout d'abord, enfin, avant, j'aimerais préciser quand même que nous, dans l'Aude, on l'a fait en préambule, mais j'aimerais aller un peu au-delà avant de démarrer sur la loi El Khomri. C'est que la CAPEB, nous représentons donc 3861 entreprises qui pèsent 10 000 actifs ici dans l'Aude.
Donc sur le département.
Sur le département, je parle des entreprises.
Plus de 3800.
Je parle pour elles. Mais ici, sur le département, la CAPEB, c'est 630 adhérents. Mais nous représentons donc 20% de ces entreprises du bâtiment. Il y a la répartition, c'est ce que vous me demandiez tout à l'heure, c'est les maçons, nous sommes 31%, les plombiers 24%, les électriciens 15%, les menuisiers, les peintres, et ainsi de suite. Donc les entreprises que vous me demandiez, c'est que l'entreprise seule à la CAPEB, c'est 47%, les entreprises comptant plus de 10 salariés, c'est 44%, et au-delà de 10, c'est 9%.
Oui, voilà. Donc, grosso modo, il y a quand même moitié-moitié des entreprises à une seule personne.
Oui,
des
tout à fait.
Artisans qui sont...
Tout à fait. Ouais.
Donc, il est important de le rappeler, parce que quand on parle entreprise en France, et notamment à propos de la loi Khomri et autres, on imagine toujours les grandes entreprises, comme s'il n'y a, et notamment celles du CAC 40, comme s'il n'y avait que ça en France.
Tout à fait. La loi était justement, le projet de loi est orienté là-dessus, c'est-à-dire qu'il a été fait que pour les grosses entreprises. Donc nous, sur ce projet de loi, nous avons été oubliés. C'est-à-dire que ce texte, c'est un texte qui est fait pour les grosses entreprises, c'est-à-dire c'est le déni des petites entreprises et au niveau de la concertation, c'est-à-dire qu'on demande à ce que les négociations se fassent par entreprise, alors que nous, actuellement, sur les petites entreprises, les négociations se font plutôt par branche.
Oui. Alors ça fait partie des revendications que vous auriez, vous, des discussions, des négociations par branche.
Voilà. Toutes nos discussions, vous comprenez bien, au niveau de nos petites entreprises, il est impossible que nous ayons des RH au sein de nos entreprises et ainsi de suite. Et donc actuellement, tout se fait par branche. Et ça marche très bien comme ça. Et aujourd'hui, on est en train d'essayer de casser ça.
Oui. Alors justement, on s'est aperçu, Michel l'a bien fait remarquer, justement, à propos de ce projet de loi, puisque ça n'est pas encore une loi. Il y a eu des manifestants qui font reculer le gouvernement. Michel a bien fait ressortir que ces manifestants, très souvent étant des gens pas concernés du tout par le projet, c'est un petit peu le paradoxe, et qui sont capables, en signant des pétitions, en allant dans la rue, de faire reculer le gouvernement. Et alors on dit à côté de ça, les gens qui souhaitent véritablement une réforme du Code du travail, ben on ne les entend pas suffisamment sur les médias.
On ne nous entend pas sur les médias, mais nous négocions ferme. Notre président confédéral, M. Patrick Liebus, tient le siège de nos élus nationaux, aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon, donc il est souvent reçu, très souvent, mais nos revendications n'avancent pas. C'est-à-dire qu'on nous a fait des promesses, on nous a écoutés ces dernières années. En 2014, une loi a été votée au niveau de la représentativité, au niveau des petites entreprises, donc ça a été une grande avancée. Il y a eu deux recours au niveau du Conseil constitutionnel par les grandes entreprises, entre autres par le MEDEF, qui ont été rejetés. Et malgré ça, ce qu'on a fait, ils ont fait repasser le texte à l'intérieur du texte de Madame El Khomri. C'est-à-dire que, à nouveau, on n'aurait aucune représentativité. C'est-à-dire que la représentativité se ferait au niveau du salarié et non pas au niveau du nombre d'entreprises. C'est ce que nous demanderons.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours ce même problème. On a l'impression en France qu'il n'y a que le MEDEF comme organisation
MEDEF,
responsable.
MEDEF, CGPME aussi.
Voilà, MEDEF, CGPME, tout à fait, puisque l'accord qui a été fait en catimini derrière le dos de l'UPA, l'UPA, c'est l'Union professionnelle artisanale dont la CAPEB fait partie, hein, la CAPEB, la CGAD et la CNAMS. Donc,
donc ça, c'est l'ensemble des artisans.
Voilà, ça, c'est au niveau de la... Pour pouvoir discuter au niveau paritarisme, si vous voulez, nous sommes regroupés, nous artisans, au sein de l'UPA, l'Union professionnelle artisanat, et qui l'UPA existe depuis les années 80.
Oui, Michel, une remarque.
Oui, Monsieur Wagner, d'une manière générale, en fait, le potentiel de création d'emplois dans notre pays, et à plus forte raison dans notre région, et à encore plus forte raison dans notre région, est concentré dans le secteur des petites entreprises, y compris artisanales. Bon. Et il se trouve qu'elles sont nombreuses dans le bâtiment, qui est un des principaux secteurs économiques de notre département. Oui. De votre point de vue...
80% du tissu.
De votre point de vue, et par rapport à ce qui est proposé dans le projet de loi... Qu'est-ce qui permettrait aujourd'hui à vos entreprises de libérer les contraintes relatives à la création d'emplois, à la création d'emplois qui devrait figurer, par exemple, dans un projet de loi dit El Khomri?
Et nous, ce que nous réclamons depuis des années, c'est un nivellement européen, un nivellement pas vers le bas, mais un nivellement au niveau des...
Une harmonisation.
Ce qu'on demande, c'est une harmonisation au niveau européen, au niveau des cotisations sociales. Je parlerai pas de charges, je parlerai de cotisations sociales, puisque il faut une couverture. Mais actuellement, en France, les charges sociales, donc... Ils sont trop élevés par rapport à...
Que la France est le champion toute catégorie.
Donc ce qu'on aimerait, c'est redescendre et pouvoir être concurrentiel, tout simplement. Donc aujourd'hui, le taux horaire en France est un des taux horaires les plus élevés d'Europe. C'est pas le premier, puisque devant, on a les pays du Nord. Mais on vient juste derrière, et ça fait qu'on n'est pas concurrentiel. Ensuite, est arrivé, depuis quelques années... des statuts qui ont mis en danger le tissu social au niveau départemental, au niveau national, mais sur nos territoires, c'est-à-dire de proximité, c'est-à-dire les micro-entreprises. Alors certes, l'auto-entrepreneur, on combat le statut, c'est ce statut qu'on a combattu, puisque, si vous voulez, on était en concurrence déloyale. Pour démarrer, c'est un très bon statut, mais ensuite, ça s'institutionnalise, c'est institutionnalisé, et du coup, on se retrouve face à une concurrence déloyale, et c'est très difficile pour les petites entreprises.
Oui. Michel également, oui.
Oui, alors, à propos des charges sociales, d'ailleurs, une autre question, en fait, à M. Wagner, en fait, et à son collègue. En France, en moyenne, le travail au noir, c'est entre 20 et 25 milliards par an. Les deux secteurs les plus concernés par ce travail au noir sont le bâtiment et la restauration. Des secteurs importants dans notre département.
Oui, chez nous, oui, bien sûr.
Est-ce que cela aussi, en fait, vous pose un problème, en fait, est une réalité dans ce département?
Oui, c'est une réalité. Le combat de la CAPEB, ça a été cette fameuse TVA 5,5, hein, qui a été un combat de haute lutte que nous avons obtenu, et après, on est revenu dessus. Aujourd'hui, la TVA sur l'amélioration énergétique, c'est 5%, 5,5, et aussi pour l'accessibilité, c'est 5,5. Mais après, sur la rénovation, c'est 10, et sur le 9, donc c'est comme pour toute autre TVA, 20%. ce qu'on explique, ce qu'on a expliqué à nos élus nationaux, c'est que la TVA à 5,5 avait fait rentrer de l'argent dans les caisses et non pas perdre de l'argent à l'État. C'était tout à fait l'inverse, puisque en baissant les taux sur la rénovation, c'est-à-dire où des gens avaient déjà payé de la TVA à l'acquisition, donc on disait qu'en rénovation, on pouvait avoir un taux minoré, et on s'est rendu compte, chiffre à l'appui, que aller à la période où il y a eu la TVA 5,5 sur la rénovation, il était rentré davantage d'argent dans les caisses de l'État au niveau TVA qu'en remontant les taux. Voilà, ça c'est un constat.
En multipliant les opportunités, en quelque sorte.
Oui, on multiplie aujourd'hui avec le micro-statut, c'est de l'argent en moins aussi, puisqu'il n'y a pas de TVA. Donc quand on ne rentre pas de TVA, ce n'est pas d'argent dans les caisses de l'État. Je rappelle que la TVA, c'est le premier impôt derrière l'impôt sur le revenu.
Absolument.
Il y a certains départements en France où la TVA est passée en numéro 2 derrière l'impôt sur le revenu. Donc posons-nous les vraies questions. Aujourd'hui, il y a des écoles à construire, des routes à entretenir, il y a à faire fonctionner un État, et la TVA est une première source d'impôts. Donc posons-nous les vraies questions.
Vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Wagner, que vous avez du mal à vous faire entendre, notamment lorsqu'il s'agit de négocier à Paris, au niveau gouvernemental. Alors on évoquait tout à l'heure, en tout début d'émission, certaines actions de certaines corporations qui sont parfois un petit peu rudes, mais qui visent à se faire entendre parce que médiatiquement, ça ne passe pas. Est-ce que vous envisagez, vous, de temps en temps, d'avoir des actions qui vont attirer l'attention du public sur ce que vous êtes et sur ce que vous réclamez ?
Nous ne pensons pas que descendre dans la rue soit la meilleure solution, puisqu'on essaye à tout prix de négocier.
Il est vrai que vous avez aussi autre chose à faire.
C'est vrai que quand on est dans la rue, nous perdons notre journée, on n'est pas payé pour la journée pour aller manifester, donc c'est compliqué pour nous.
Ils ne peuvent pas casser des maisons non plus.
Voilà. On va reconstruire derrière. Non, c'est vrai qu'on essaye à tout prix, par la voie de la négociation, de faire avancer nos idées, mais c'est très compliqué, je vous l'accorde.
Oui, justement, on s'aperçoit que les gens trop raisonnables ont la tendance dans ce pays à ne pas trop les écouter.
Oui, mais on l'a eu fait. Pour la TVA 5,5, nous sommes descendus dans les rues, mais c'est vrai que ça n'est pas dans notre culture.
C'est pas dans notre ADN.
C'est vrai qu'on est plutôt des hommes de terrain et des hommes de concertation et des hommes de discussion, et c'est vrai que c'est pas dans notre ADN, et je pense que le fait de casser ne ferait pas avancer nos idées.
Alors, on a beaucoup parlé de bâtiments, et forcément, la CAPEB parle de bâtiments. On sait que c'est un des gros secteurs économiques dans notre région, mais on sait aussi que ce bâtiment, depuis quelques années, a beaucoup régressé.
Oui, tout à fait. Écoutez, l'activité baisse pas depuis 2008. Donc on a surfé sur des carnets de commandes pleins. Et ensuite, le secteur a commencé à se dégrader fin 2009, début 2010. Et depuis, nous sommes en récession. Alors certes, il y a certains territoires où les chiffres peuvent paraître en meilleur état, c'est-à-dire qu'il y a quelques embellies, mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Et on sait que, je sais qu'en région parisienne et sur une autre région, c'est région Loire, je crois, ils ont des bons chiffres au niveau du neuf, dans la construction neuve.
Mais il y a quelques signes, où ça marche.
Mais nous, dans notre nouvelle grande région, nous sommes toujours en négatif. Voilà. Tous les chiffres sont négatifs. On est le 14e trimestre consécutif de baisse.
De baisse, oui. D'ailleurs, l'indice de la construction n'a pas bougé, ou plutôt a régressé, ce qui est assez rare dans l'histoire du pays.
Oui, moins 2% d'activité en France au niveau du bâtiment. Et dans la nouvelle grande région, on est à moins 0,5%. Donc on redresse pas la tête. Il y a certaines régions qui sont en positif. Ils sont c'est pas énorme, mais ils sont en positif.
Et alors, comment expliquez-vous justement ces différences? D'où viennent ces marchés? D'où est-ce qu'ils tombent dans les régions où ça marche mieux?
Y a la commande publique, certes. La commande publique aide énormément à relancer le bâtiment, certes. Donc là, apparemment, il y aurait... les annonces qui ont été faites au niveau de la grande région, c'est 800 millions, plus de 800 millions. Donc ce qui avait été décidé, de toute façon, c'était déjà 600 millions. Donc on rajouterait 200 millions.
Ces 800 millions et ce plan Marshall avaient beaucoup fait rire Michel Santo à l'époque.
Voilà. Oui, mais nous ne sommes concernés réellement que par 33 millions. Il y aurait dans cette enveloppe 33 millions qui étaient déjà attribués. C'était sur la rénovation de l'habitat et la rénovation énergétique.
Oui, alors on est bien loin des fameux 800 millions.
Nous ne sommes pas concernés par les gros travaux. envisagé.
Oui, rappelons aux auditeurs quand même que les 800 millions en question, ce sont des autorisations en autorisation de programme. Donc ça veut dire que les crédits de paiement de l'année N 2016 ne seront pas du tout faits de 800 millions,
tout à
mais
fait.
Seront étalés sur plusieurs années. Et que ça concerne tout un tas de réalisations. Comme par exemple les travaux réalisés par la compagnie du baron de Languedoc, ce qui n'a effectivement pas grand-chose à voir effectivement avec le bâtiment. Mais enfin bon, passons.
Alors il y a la commande publique dont vous dites, Jean-Marc Wagner, qu'elle se porte mal. Bon, parce que les collectivités locales, à part des effets de manche comme ça, des plans Marshall, peut-être...
Oui, mais elles gèrent des parcs HLM importants, quoi. Hein.
Oui,
un secteur très important.
Il existe quand même des choses existantes et qui ont besoin de rénovation. Et même là, ça semble marquer le pas.
Il y a, si vous voulez, les donneurs d'ordre aujourd'hui, ils essayent de boucler les fins de mois. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué. Ensuite, sur les petits marchés, c'est vrai que nous, on est en fin de course. Enfin, je parle pour les petites entreprises. Et c'est vrai que c'est complexe. C'est très complexe aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui aussi, on a besoin aussi de regagner des marges. Parce que les entreprises, aujourd'hui, les trésoreries sont exsangues.
Oui, à cause de quoi alors ?
Justement, à cause de ces marchés où on tire vers le bas, on tire vers le moins 10 ans. Ouais. Nous, on demande que les marchés publics soient traités au mieux 10 ans. Et actuellement, ce n'est pas le cas.
Oui, Michel.
Oui, mais à ce sujet, d'ailleurs, entre parenthèses, M. Wagner, moi, je constate que beaucoup d'entreprises qui travaillent en sous-traitance pour des opérateurs choisis dans le cadre de marchés publics par des collectivités publiques mettent en concurrence des entreprises comme les vôtres. Et beaucoup d'entre elles, aujourd'hui, travaillent en dessous de leur prix de revient.
Oui,
ce qui, effectivement, de ce point de vue-là, économiquement, est une qui ne peut pas tenir longtemps.
Oui, la réaction d'Olivier Coulon.
Il y a malheureusement beaucoup d'entreprises qui travaillent, exactement, vous l'avez dit, en dessous de leur prix de revient, on peut même dire à perte, mais qui préfèrent prendre des marchés, car ça leur coûte moins cher d'avoir leurs salariés qui travaillent à perte, plutôt que les laisser au dépôt. Et donc le marché d'après, s'ils veulent continuer de l'avoir, il faut qu'il y ait exactement le même prix. Quand vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-Marc l'a très bien dit, sur les statuts qui nous ont été imposés, qu'il faut savoir que dans la région, quand même, sur les entreprises individuelles, il y a un auto-entrepreneur sur deux. Donc quand vous parlez également du travail au noir, quand on parlait de la TVA 5,5, eh bien, ça mettait un peu plus en difficulté. C'était moins avantageux pour un client d'avoir une TVA 5,5 que d'avoir une TVA 20. Donc il faisait moins de noir derrière parce que du coup l'écart était moindre. Donc là, quand vous avez évidemment des auto-entrepreneurs qui passent à des prix très bas, si nous, petite entreprise du bâtiment, nous voulons continuer à avoir les marchés, il faut qu'on puisse réussir à travailler à leur prix, ce qui est totalement impossible, ce qui nous revient à travailler à perte.
Et alors la TVA faible, à 5,5 par exemple, ça fait partie de vos revendications essentielles aujourd'hui.
Tout à fait. C'est l'essence aujourd'hui de nos revendications. On sait qu'aujourd'hui, on relancerait le secteur du bâtiment dans la rénovation. C'est clair et net. Et la rénovation, c'est vraiment notre socle actuellement.
Et vous avez l'impression qu'en haut lieu, au niveau gouvernemental, on n'est pas du tout conscient de ces choses-là.
Non, 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 non. Là-dessus, on n'est pas entendu. De toute façon, c'était tout l'inverse, puisqu'on est passé de 5,5 à 7 et de 7 à 10. Et aujourd'hui, apparemment, il est hors de question de redescendre à 5,5. Donc, on a obtenu de haute lutte de repasser à 5,5 sur la rénovation énergétique, mais on n'est pas sûr.
Oui, mais c'est un combat. C'est un marché assez restreint.
Ça. C'est un marché très restreint, de toute façon, puis c'est tout récent, donc il y a du travail à faire. Et c'est pas acquis. C'est-à-dire que chaque année, il faut qu'on se rebatte là, sur ces questions pour pouvoir conserver ce taux de TVA.
Oui, eh bien, je crois que c'est là-dessus que nous allons conclure. Merci en tout cas, Jean-Marc Wagner. Merci, Olivier Coulon, d'être venu nous parler justement des problèmes de la CAPEB et de ses artisans et de cette économie audoise dont vous avez démontré que votre secteur en occupe une part tout à fait prédominante. Prochain Radio Bar que je l'évoquais au cours de cette émission, nous évoquerons la fameuse polémique sur la salle multimodale avec le Parti Socialiste Narbonnais, Enzo Lefebvre et Christine Breton, deux de ses responsables. Puis un petit peu plus tard, nous recevrons Madame Nam Ping Gao, qui est une Chinoise de naissance en tout cas, qui est la directrice actuelle du Château La Bastide à Escale, repris récemment par un groupe chinois.
Très bien.
Merci. Et à la semaine prochaine.
Merci.
Prochaine.